France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons à Rome dès le début de ce journal pour la nouvelle homélie du pape Léon XIV. Déjà lors de sa première apparition hier depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouveau souverain pontife avait parlé de la paix ce matin. Il dit déplorer le recul de la foi au profit de l'argent, le pouvoir, le plaisir. Quelle orientation entend-il donner à son pontificat en posant la question à notre invité aujourd'hui, Jean-Benoît Poul, doctorant en histoire moderne à Sorbonne Université. Nous également à Moscou pour la grande parade militaire traditionnelle du 9 mai organisée sur la place Rouge, défilé au cours duquel le président Vladimir Poutine en a profité pour célébrer le courage de ses soldats engagés en Ukraine. Par ailleurs, et tandis que l'Inde et le Pakistan se sont livrés ce matin encore à de nouvelles attaques de part et d'autre de leurs frontières communes, on se demandera jusqu'où peut conduire cette escalade militaire. Enfin, on s'intéressera à ce traité bilatéral que la France et la Pologne s'apprêtent à signer aujourd'hui même. Après Benoît, François, Paul et les autres, voici donc Léon Robert de son vrai prénom et prévost de son nom. À 69 ans, c'est lui, cheveux gris, fine lunette, l'air presque un peu gêné, mais souriant, que le monde entier apprend à connaître depuis hier en tant que nouveau chef de l'Église catholique, proche collaborateur de son prédécesseur, ce pasteur augustinien féru d'histoire chrétienne, de mathématiques et réputé modéré, raisonnablement ouvert aux réformes, sans tabou et capable de concilier les points de vue. Et pour ce qui est de son engagement pour les plus nécessiteux, eh bien, le mieux c'est encore de l'entendre ce matin même célébrer la messe dans la chapelle Sixtine. Cécile Bidot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Rome, vous avez assisté ce matin à cette première homélie extrêmement attendue.
Gloria in excelsis Deo.
Oui, le pape Léon est d'abord apparu lors de ce chant d'introduction, la voix un peu tremblante. Hein. Le premier texte, et c'est notable, a été lu en anglais par une sœur franciscaine de l'Eucharistie. Et c'est aussi en anglais qu'il a débuté son homélie en improvisant, appelant les fidèles à marcher avec lui dans l'unité. Plus classique, il a ensuite repris le fil de son texte en italien, en parlant avec humilité, espérant être l'administrateur de l'Église, et en s'inscrivant dans les pas du pape François, qui prônait la simplicité. Il a expliqué que ce ne serait pas par la magnificence ou la grandeur des édifices, mais par la sainteté de ses membres. Le pape Léon a ensuite analysé la place de la foi dans notre société, considérée selon lui comme absurde, réservée aux personnes faibles et qui a du mal à résister face à la technologie et aux puissances de l'argent, au plaisir, au succès. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Anche oggi non sono pochi i contesti cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti. Contesti in cui adesso si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo.
Voilà, ce qu'il dit ici, c'est que dans ce contexte, ce n'est pas facile d'annoncer l'évangile, et c'est pourquoi il considère que sa mission est urgente face à ce qu'il appelle la crise de la famille et la perte du sens de la vie.
Merci Cécile Bidot en direct de la place Saint-Pierre ainsi qu'à Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Alors on a déjà beaucoup rappelé les origines de ce nouveau pape, un Américain au Vatican, quand le Saint-Esprit continue décidément de nous surprendre, de nationalité péruvienne également. Il est surtout vu en réalité comme un homme d'église qui dépasse les frontières avec des ascendants français et espagnols. Quant à sa famille, entre un père qui a servi dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale et une mère bibliothécaire, Robert Francis aura eu une enfance plutôt dévote, et celui qui en parle le mieux, c'est encore son frère, lequel a donné dès hier soir une interview à la télévision locale de Chicago. Récit sur place, signé Claude Kibal.
Sur la East 141e rue, la petite maison en briques rouges est à vendre. Le quartier aujourd'hui est mal famé, on n'y traîne pas le soir. Mais il y a plus de 60 ans, lorsque Louis et Mildred Prévost vivaient là avec leurs trois fils, la vie était bien plus tranquille.
On était des gamins comme les autres, on se réveillait, quelqu'un venait taper à la porte, proposer d'aller jouer, on faisait
faisait du baseball, ce genre de truc que les gamins normaux font avec leurs voisins.
L'homme qui raconte ses souvenirs à la télévision locale, c'est John, le frère aîné du pape. Une vie tournée autour de l'église de la paroisse, Sainte-Marie de l'Assomption, où le futur Léon XIV sert la messe avec ses frères. John sent déjà une vocation chez son cadet.
Il y a des enfants qui veulent jouer à la guerre, des filles qui jouent à la poupée ou à la dinette. Lui, il voulait jouer au prêtre. Il prenait la planche à repasser de notre mère, il mettait une nappe dessus et il fallait qu'on joue à la messe. Il prenait ça très au sérieux, il blaguait pas, c'était pas un jeu.
John Prevost raconte aussi un frère à la vocation profonde et au destin incontrôlé.
Au fond de lui, il voulait être missionnaire, il ne voulait pas être évêque, mais on le lui a demandé, alors il a obéi. Il aurait aimé retourner au Pérou, travailler dans la mission, parce qu'il se sentait proche des pauvres, ceux qu'on n'écoute pas. Et en ça, je pense qu'il sera un deuxième pape François.
Et d'avoir enfanté ce pape, Chicago, euphorique, n'en revient toujours pas.
Voilà, et pour continuer d'évoquer ce nouveau pape, invité à présent de la rédaction, Jean-Benoît Poul, doctorant en histoire moderne à Sorbonne Université, spécialiste du Vatican pour la revue Le Grand Continent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À entendre les mots prononcés ce matin par le pape dans sa première homélie qui appelle à éclairer les nuits du monde, lutter contre la perte du sens de la vie, ne pas réduire Jésus à une sorte de leader charismatique, de surhomme, que peut-on en déduire de l'orientation qu'il devrait donner à son pontificat ?
Alors, je signerai peut-être avant tout les difficultés de l'exercice, puisque il s'agit avant tout d'une homélie spirituelle, prononcée au cours de la liturgie de la messe, qui est donc avant tout spirituel et donc par le fait même tourné à l'intérieur du monde catholique, mais qui ne signifie pas pour autant un enfermement, bien au contraire. Et ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un programme de gouvernement. Alors ce qu'il reste en fait à l'analyse, c'est la tonalité de l'homélie. Et alors là, comme je viens de l'évoquer, il s'agit d'une tonalité très spirituelle et en même temps assez habile, très synthétique, je dirais, entre divers accents, divers courants de l'Église. C'est une homélie qui cite beaucoup, assez érudite, qui cite pas mal certains pères de l'Église, l'Écriture, la Bible bien sûr elle-même, aussi le Concile Vatican II, un petit peu comme des gages, si vous voulez, donnés au courant réformateur qui s'autorise de ce concile. Mais c'est une homélie qui est tout de même, christocentrique, recentrée sur la personne du Christ, et donc évidemment spirituel, adressé donc aux catholiques, aux personnes croyantes, et centré sur la foi, centré en fait sur un peu les difficultés de la foi dans le monde moderne.
Lorsque son nom a été prononcé hier soir pour la première fois, il y a eu comme un murmure d'incompréhension. Tout le monde semblait se demander de qui parle-t-on. Et pourtant, depuis, tous les portraits qu'on a pu lire de lui dressent l'image d'un homme ancré dans la modernité, en même temps qu'attaché à la tradition. Sa connaissance de la curie contribue également à construire une image rassurante. Bref, un pape presque idéal d'équilibre, d'apaisement. Et l'on se dit, pourquoi ne faisait-il pas partie des favoris ?
Alors là, je pense que bien des vaticanistes, peut-être à commencer par moi, doivent confesser une sorte de mea culpa. Je pensais simplement, étant cardinal depuis moins de 2 ans, et relativement jeune, il a moins de 70 ans, il était trop junior pour véritablement figurer dans la shortlist des papabiles. Cela étant, je l'avais placé, pour ainsi dire, ou catégorisé comme ce qu'on appelle, vous savez, un grand électeur, un pope maker, quelqu'un dont la voix était très écoutée, puisque son précédent poste était celui, donc, préfet de ce qu'on appelle le dicaster pour les évêques, la curie romaine, c'est-à-dire, en somme, le DRH de l'Église, vraiment, l'homme qui sélectionnait pour le pape, les évêques dans quasiment, pas tout à fait, mais quasiment tous les diocèses du monde. Donc c'était une voix qui allait peser, et au fil des congrégations générales, donc ces réunions préparatoires de cardinaux qui ne sont pas publiques, mais qui sont, disons, moins secrètes que le conclave, puisque les cardinaux peuvent parler, glisser des confidences aux journalistes à leur sortie, son nom s'imposait de plus en plus. Il revenait de plus en plus, peut-être pas au premier rang comme Paroline, etc., mais il gagnait de plus en plus de place. Et apparemment, c'est aussi ce qui s'est poursuivi durant le conclave, il s'est imposé avec la force de l'évidence.
Au cours des dernières années, Robert Francis Prevost donc a connu une ascension fulgurante au sein de la curie, en gagnant très rapidement la confiance d'ailleurs du pape François, dont il se rapprochait aussi par son origine missionnaire, le lien avec l'Amérique latine où il vivait. Ça veut dire que les cardinaux ont opté pour une forme de continuité.
Continuité avec François, sans nul doute, mais également peut-être continuité plus générale avec tous les papes qui ont précédé. Je trouvais que petite personnelle a écouté son message en faveur de la paix, qu'il ressemblait beaucoup alors au pape Jean XXIII, un pape qui avait des accents aussi en faveur de la paix durant la guerre froide, au début des années 60, lorsqu'on craignait une guerre nucléaire. Bon, tout cela revient un peu d'actualité, redevient un peu d'actualité. C'est un pape, encore une fois, spirituel, qui a une véritable profondeur doctrinale, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire de lui, qui s'appuie sur saint Augustin. Alors là, ça nous rappelle peut-être davantage Benoît XVI. Et surtout, il apparaît vraiment comme l'homme de la synthèse idéale, avec quelque chose d'assez inexplicable, en tout cas à titre en première approche, qui est qu'il s'est fait élire très rapidement partout où il est passé. Il a été élu donc supérieur général de son ordre, les religieuses Augustins en 2001, en une vingtaine de minutes. C'est-à-dire, là, bon, c'est moins important qu'une élection papale, mais c'est l'élection la plus courte de l'histoire séculaire de cet ordre. De même, c'est après une seule rencontre, une seule audience privée avec le pape François, alors qu'il n'était qu'un évêque assez périphérique, que le pape François l'a nommé donc préfet du dicaster, sélectionneur de tous les autres évêques. Donc, dans sa personnalité, et cela s'est reproduit sans doute au conclave, il y a quelque chose qui fait très très forte
une
impression,
forme d'évidence.
En tout cas, pour les autres clercs.
Il se trouve que Léon XIV porte dans son nom même donc un manifeste social venu de Léon XIII, le père de la doctrine sociale de l'Église. Concrètement, dans quelle lignée s'inscrit donc le nouveau pape par ce choix de nom ?
Alors, il serait fastidieux de passer en revue tous les Léons. Je pense que vous avez décelé le plus important, qui était donc le pape Léon XIII. Un pape, là encore, qui faisait la synthèse de plusieurs courants, très diplomate, très fin, assez intransigeant sur le fond, hein, sur la question romaine, il n'a rien cédé, c'est-à-dire qu'il se considérait à l'époque comme prisonnier au Vatican et refusant absolument l'unité italienne faite contre lui depuis la perte des États pontificaux. Cela étant, il a aussi Léon XIII est aussi le pape qui a lâché du lest en invitant les catholiques français à reconnaître la République, ce qui était un geste inédit. Et donc c'est un pape diplomate, intellectuel, c'est le grand pape du renouveau des études de saint Thomas d'Aquin, hein, le renouveau des études thomistes, donc, qui en a fait vraiment le plus grand docteur de l'Église, le plus grand théologien voilà, à travers les siècles. Un pape aussi voilà polyglotte et fin, mais avec une certaine intransigeance doctrinale, surtout à cette époque de papauté qui était quand même plutôt, pour le dire vite, dans la fermeture à l'égard du monde moderne. Là, Léon XIV n'est pas dans la fermeture à l'égard du monde moderne, hein, il est bien plutôt dans l'écoute, mais il se souvient de la longue liste de tous les Léons qui l'ont précédé. Il y a également Léon I. Voilà, je termine juste en disant, il y a Léon le Grand, c'est Saint Léon, hein, il faut regarder quand même ceux qui ont été décrétés saints, et Saint Léon le Grand, c'est un pape majeur, alors dans l'Antiquité tardive, mais c'est un des trois papes à avoir été qualifié de grand.
C'est bien compris. Merci Jean-Benoît Poul, doctorant en histoire moderne à la Sorbonne Université, spécialiste du Vatican pour la revue Le Grand Continent, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Un apaisement est-il encore possible entre l'Inde et le Pakistan ?
Hier, les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir mené des attaques de drones, de missiles, de tirs de mortier, aggravant l'inquiétude d'une communauté internationale qui appelle à une désescalade. En vain, on dénombre déjà une cinquantaine de morts, essentiellement des civils. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Jusqu'à quel point cet état de guerre doit-il nous effrayer, compte tenu notamment, Eric, du rapport de force entre les deux puissances nucléaires ?
Alors, la confrontation militaire en cours entre l'Inde et le Pakistan ressemble en fait à toutes celles qu'on a pu voir par le passé. Les rivaux du sous-continent se sont déjà affrontés dans 4 guerres et une douzaine d'affrontements mineurs depuis 1947. Mais cette fois, l'Inde a décidé dès le début de mettre des moyens lourds, notamment aériens, en lançant une opération de bombardement ciblée sur des sites identifiés comme terroristes au Cachemire pakistanais. Le Pakistan a répondu quasi immédiatement en essayant de contrer l'attaque aérienne indienne, même si aucun des appareils indiens ne semble avoir franchi ni la frontière, ni la ligne de contrôle, frontière de fait au Cachemire. Le Pakistan annonçait avoir détruit 5 appareils indiens qui auraient donc été abattus dans l'espace aérien de l'Inde. Jeudi, hier, les échanges se poursuivaient, tirs par le Pakistan de missiles et de drones kamikazes longue portée sur des objectifs militaires indiens, bases ou postes de l'armée. Jeudi après-midi, ce sont les drones kamikazes indiens, des Harpy de fabrication israélienne parfaitement reconnaissable, qui visaient des bases militaires pakistanaises, les défenses forces antiaériennes et les radars pakistanais, et ce, un peu partout sur le territoire du Pakistan, y compris dans de grandes agglomérations comme Karachi au sud ou Rawalpindi au nord-est. Ce matin, le Pakistan prévenait sa population que de très nombreuses opérations de lutte antiaérienne présentées comme des exercices étaient à l'ordre du jour ce vendredi, tandis que l'Inde annonçait vouloir mobiliser son armée territoriale, constituée de volontaires, et avoir déployé une partie de sa flotte sur le nord de la mer d'Arabie, c'est-à-dire face aux côtes pakistanaises. Alors tout ça ressemble effectivement à une escalade. Tout le problème étant de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, parce qu'il y a évidemment quelques raisons de vouloir temporiser les choses, de dissuader l'adversaire de vouloir pousser son avantage. Les deux pays détiennent en effet chacun un arsenal de quelques 150 à 200 ogives nucléaires, de quoi rayer de la carte la totalité du sous-continent.
Merci Eric Biegalin. Commémoré pour la quatrième année consécutive dans l'ombre du conflit en Ukraine, les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie ont donné lieu ce matin à une grande parade sur la Place Rouge, un défilé traditionnel au cours duquel le pouvoir a déployé des efforts considérables pour que rien ne vienne troubler les festivités et surtout le discours de Vladimir Poutine devant ses troupes, ainsi qu'une vingtaine de dirigeants étrangers. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, sans surprise, le discours du maître du Kremlin était nourri tout à la fois, Sylvain, de glorification du militarisme et de propagande patriotique.
Oui, avec surtout une nouvelle fois un pont lancé entre hier et aujourd'hui. Cela fait maintenant longtemps que le pouvoir russe a intégré, fusionné la victoire de 1945 et l'invasion de l'Ukraine dans une même justification de défense de la souveraineté, de la survie quasiment du pays. Ceci dit, Vladimir Poutine a finalement peu parlé d'Ukraine aujourd'hui dans ce discours assez court d'une dizaine de minutes.
Правда и справедливость на нашей стороне.
La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, de la société et du peuple soutient les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination. Cette force d'esprit nous a toujours apporté que la victoire.
Voilà, il n'a été question de l'Ukraine que sur ces deux phrases. À usage interne, la société russe doit rester unie, comme en 1945. Toute contestation n'est même pas envisageable, puisque, par définition, toute la société russe soutient la guerre en Ukraine, et c'est à peu près tout. Peut-être Vladimir Poutine a-t-il voulu ménager ses hôtes du jour, le président chinois Xi Jinping, son homologue brésilien Lula, qui était là, certes, mais ne le soutiennent que du bout des lèvres ou regarde ailleurs quand il s'agit de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a surtout rendu hommage aux anciens, aux soldats, aux civils, aux 27 millions de morts. Côté soviétique, le discours de 2025 du 9 mai était incontestablement le moins agressif des quatre prononcés par le maître du Kremlin depuis le début de la guerre. Ceci dit, l'heure de vérité sera ce soir à minuit quand la trêve décrétée par le Kremlin aura expiré. On verra avec quelle intensité les bombardements reprendront une fois les chefs d'État repartis dans leurs pays respectifs.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors on l'aura compris, cet anniversaire de la capitulation du régime nazi a pris une nouvelle dimension au regard du contexte géopolitique, mais aussi parfois national. C'est le cas notamment en Allemagne où ces commémorations sont ébranlées aujourd'hui par la présence grandissante de l'AfD, arrivée en seconde position des dernières élections législatives et qui hier encore a obtenu une nouvelle victoire après que le renseignement intérieur a provisoirement suspendu son classement en tant que groupe extrémiste de droite avéré. Quoi qu'il en soit, le nouveau chancelier est lui à Bruxelles aujourd'hui, Friedrich Merz, qui rencontre les responsables des principales institutions européennes impatientes de relancer avec la première économie du bloc un vieux continent confronté à une cascade de crises.
Et tandis que le nouveau chancelier est donc à Bruxelles, le président français et le premier ministre polonais, eux, ont prévu de se retrouver à Nancy.
Oui, Emmanuel Macron et Donald Tusk doivent y signer un traité d'amitié. L'objectif, renforcer toute une série de domaines parmi lesquels la sécurité, la défense, les infrastructures, l'énergie, un partenariat bilatéral, signe du poids grandissant aujourd'hui de Varsovie en Europe. Acteur clé évidemment du flanc Est face à la Russie. Une séquence qui plus est chargée de symboles en cette journée de l'Europe et puis surtout une illustration de plus, Timo Osturk, du rôle qu'Emmanuel Macron entend se donner encore une fois sur la scène européenne.
Renforcer la sécurité européenne et ne plus reposer entièrement sur les États-Unis pour la défense. Deux objectifs affichés d'Emmanuel Macron qui résonnent avec la signature de ce traité. Pour l'Élysée, il s'inscrit dans la nécessité d'accélérer sur l'agenda européen de souveraineté. La Pologne, en première ligne face à la Russie, est très dépendante des Américains pour sa défense. Elle pourrait diversifier ses approvisionnements en se tournant vers l'Hexagone. Rhône. Un marché prometteur. La Pologne compte 216 000 soldats, plus que la France, et vise les 300 000 hommes dans 10 ans. Après une période de turbulence dans la relation franco-polonaise entre 2015 et 2023, l'Élysée voit désormais une anomalie dans l'absence de traité bilatéral quand la France en a signé avec l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne. La date, elle, n'a pas été choisie au hasard. Le 9 mai, journée de l'Europe et jour où les chars russes défilent à Moscou pour commémorer la victoire de 1945.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour du soleil au nord de la Loire. Ciel légèrement plus voilé au sud avec des risques d'averses possibles, voire d'orages sur un grand quart sud-ouest quant aux températures. Elles seront comprises entre 16 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.